c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio.
Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser pour cette voix un peu, on va dire, pas très radiophonique. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est ça, de dormir sans chaussettes. Alors il paraît qu'il était pressé cette année, qu'il a pris côté météo une semaine d'avance. Et oui, ça y est, les crocus sont déjà sortis de terre dans les parcs. Les crocus, les jonquilles, les arbres sont en fleurs. De quoi mettre de bonne humeur les observateurs de la nature. C'était le général de Gaulle qui écrivait en 1959 « Au printemps, l'amour fait monter en moi des sèves et des certitudes si railleuses et si puissantes qu'elles ne finiront jamais. » Oui, le printemps est arrivé, la belle saison, l'amour et la joie sont revenus chez toi. C'est en chanson que Michel Fugain annonce le temps du renouveau et c'était en 1978 déjà.
Dépêche-toi, ne perds pas de temps.
Michel Fugain et bien avant, Victor Hugo l'a déclamé dans les vers de son poème Printemps. Voici le printemps, mars, avril, au doux sourire, mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis. Mais qui résiste à l'éveil de la nature après les longs mois d'hiver? Les oiseaux se remettent à chanter, les arbres se couvrent de bourgeons, l'air devient plus doux. On vous le dit, c'est le printemps.
Radio Plus, appréciez la différence.
Ce printemps qui donne le coup d'envoi à la semaine pour les alternatives aux pesticides. Et dans Saletant sur la planète, nous cultiverons donc l'avenir. Et Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages des jardins des hommes, nous donnera quelques conseils pratiques. Alors la semaine dernière, dans notre rubrique animalière, nous avons fait le tour d'horizon avec Christine Defort de la SPA d'Artois des différentes substances toxiques qui pouvaient empoisonner notre petit félin à l'intérieur comme à l'extérieur. Et aujourd'hui, nous reviendrons sur les empoisonnements qui peuvent se produire chez nous, c'est-à-dire à notre domicile. Après quoi, j'accueillerai Daniel Dewal qui s'exprimera pour la clé, c'est-à-dire le collectif de lutte contre les expulsions et coupures des fluides. Eh bien oui, vous savez sans doute qu'avec l'arrivée du printemps, les expulsions reprennent et bien sûr, nous ne pouvons que nous en émouvoir.
Radio Plus, la radio plaisir.
Dès le redout dans les torrents, il y a des remous et du courant. Dans les prairies, des petites fleurs jaunes pas très jolies. Dès le redout dans les forêts, la vie fourmille de secrets. Chaque brindille cache une famille de gens discrets. Dès le redout, les amoureux ont le cœur mou et mou les yeux. Leur rêve heureux, dès le redout, fait des jaloux. Tous les matous perdent leur poil. Elles font miaou sous les étoiles. Dès le redout, il y a ce compte coucou qui fait coucou. Dès le redout, perdant raison, les âmes en font gazou, gazou sur le gazon. La peau des filles réapparaît. Dès le redout, certaines avouent le faire exprès. Dès le redout, c'est l'air de rien que tout se joue dans le jardin, chez les voisins. Dès le redout, c'est barbecue. Mais à côté, il faut semer, s'arclébiner et repiquer. Dès le redout, la mauvaise herbe envahit tout. Dans les chaudières, pas Saint-Typhon, les ménagères font tout à fond. Et c'est la guerre à la poussière dans les maisons. Dès le redout, les serpillères ont des horaires de tortionnaire. Le cou tordu, chaos debout, dès le redout. Dès le redout, perdant raison, les âmes en font gazou, gazou sur le gazon. La peau des filles réapparaît. Dès le redout, certaines avouent le faire exprès. Dès que les cieux virent au bleu, laissant le sou, sont moins soucieux. Au coin des rues, les policiers sont moins bourrus. Dès le redout, rôde l'idée de partir ou déménager. C'est le redout et les fruitiers en mettent un coup. Dès le redout, perdant raison, on peut retrouver son plumard sur le goudron. Et ses armoires sur le trottoir. Dès le redout, c'est la saison des expulsions.
Eh bien oui, voilà, c'est une chanson de Romain Didier, c'est presque le sommaire de toute cette émission. Dès le redout, Romain Didier.
Radio Plus, la radio plaisir.
Alors notre enquête dans l'air du temps, vous êtes où nous sommes, c'est comme vous voulez. 73% à dire que nous avons réussi notre vie. D'après un sondage Solidaris pour la MGEN révélé par RTL.fr, près des trois quarts des Français, c'est-à-dire 73%, considèrent avoir réussi leur vie personnelle. Cet accomplissement personnel n'empêche pas les Français d'être pessimistes quant à l'avenir de la France. Ils sont notamment inquiets pour leur avenir et celui de leurs proches aussi, et vis-à-vis de l'évolution de la société, selon ce baromètre confiance et bien-être 2017. Mais alors, ce climat morose n'entache pas leur propre existence, qu'ils jugent réussie. Les amis, le travail et la famille sont pour beaucoup dans le sentiment de plénitude ressenti par les Français.
J'ai un ulcère, des haltères, 40 et quelques années, à me demander ce que je vais faire, où devenir, aujourd'hui je le sais. Certaines soirées sont monotones, depuis que mon fils vit chez sa mère. C'est Mossad, une PlayStation, sans son jeune propriétaire. J'ai une liaison depuis 2 ans, elle dit que je refuse de m'engager. Elle a raison, c'est évident, sauf qu'elle oublie qu'on s'aime pas assez. Alors c'est ça ma vie, alors c'est lui que je suis, d'accord, c'est ça ma vie. Je recrache le somnifère, je vais sortir prendre l'air. J'ai un boulot qui ne me plaît pas, dont je ne vis d'ailleurs pas très bien. Je dis ça, mais je me plains pas, c'est déjà une chance d'en avoir. Je ne vous ennuie pas trop, j'espère. D'habitude, je suis pas si bavard. Est-ce que je peux vous offrir un verre? Bon bah bonsoir. Mes ambitions d'autrefois, depuis longtemps, revues à la baisse. J'ai plus de rêves, trop vieux pour ça. J'ai un ou deux projets à la place. Alors c'est ça ma vie, alors c'est lui que je suis, d'accord, c'est ça ma vie. Et je vais je sais pas où, j'ai pas sommeil du tout. Je n'ai pas échoué, je n'ai pas réussi. Faudrait pas trop que je tarde. Les années passent comme les heures de la nuit. J'ai l'impression que c'est ma montre qui me regarde. Ça doit être l'air de la Provence. Un petit dernier, je vous embête plus. C'est propice aux confidences. Un soir de semaine, un barman inconnu. Je voyais les choses autrement, pas forcément mieux, un peu différente. Rien d'impossible, d'extravagant. Je sais pas trop, je me rends compte que c'est ça ma vie, que c'est lui que je suis, d'accord, c'est ça ma vie. Il est 4h du mat, qu'est-ce que je fous dans cette boîte?
Benabar qui nous raconte une vie. Bon, alors c'est le printemps, certains d'entre vous se sont déjà mis au jardinage, alors cette rubrique vous intéressera sans aucun doute.
Sale dans sur la planète, oh le drôle de temps.
Eh oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
Alors bien souvent dans cette rubrique Sale temps sur la planète, nous dénonçons l'emploi de pesticides et bien sûr l'impact des pollutions chimiques sur notre santé et sur notre environnement. Aujourd'hui démarre la semaine pour les alternatives aux pesticides, opération nationale et internationale dont c'est la 12e édition, et le succès croissant de cet événement montre que la société civile ne veut pas être tenue à l'écart de ce dossier. Bonjour Bertrand Trinel.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Alors vous êtes président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, et je rappelle qu'à ce titre vous êtes l'organisateur de la fête de la tomate qui se tient à Averskerque chaque année en septembre, mais vous êtes aussi le créateur du jardin de l'ermite à Averskerque avec son verger, son rucher et son potager pédagogique, et vous allez nous en dire un peu plus sur cet endroit bucolique, et j'insiste, bucolique et naturel.
Oui, tout à fait. Donc, le jardin de l'ermite, c'est un jardin associatif d'environ 9 000 m². sur un terrain qui était mis à disposition de notre association par la commune il y a 4 ans. Donc ce jardin se veut un lieu naturel, cultivé sans aucun pesticide ni aucun produit chimique. Donc en ce sens, il y a déjà une vocation pédagogique. Donc nous y avons planté un verger, donc plus de 150 arbres fruitiers, des pommiers, poiriers, pêchers, cerisiers, mirabelliers, pruniers, châtaigniers, figuiers, noyers, tout ça. Des arbres qu'on connaît bien dans notre région. Quoique par exemple pour les noyers, on a planté par exemple le noyer bijoux aux très très grosses noix. Le noyer Red Dono dont les cerneaux sont rouges. Mais également des noyers japonais dont la noix a une forme de cœur. Ensuite, nous avons mis d'autres fruitiers, bien sûr, beaucoup moins connus chez nous. Le mûrier en arbre, le coniacier, les plaquemignés qui donnent des kakis, les nashis qui sont les poires-pommes japonaises, les aziminiers qui donnent des mangues, des néfliers européens ou des néfliers japonais, aux fleurs extrêmement, extrêmement parfumées, des acnidiodes, des lissiers qui donnent les baies de goji, des ronces japonaises, etc. Donc le verger a multiples variétés d'essences d'arbres fruitières. Et donc il a une vocation pédagogique, donc celle de faire connaître aux enfants et parfois aux adultes la grande diversité fruitière. Alors une autre partie du jardin, c'est réservé au potager. Donc de grandes parcelles y accueillent les enfants pour des cours de jardinage. Nous plantons une belle collection de haricots, des poires de terre, de l'ail éléphant, et dans la serre nous cultivons bien sûr, pour la fête de la tomate et des légumes anciens, plus de 100 variétés de tomates anciennes. Nous avons implanté un rucher pour la pollinisation, pour la sauvegarde des abeilles, parce que les abeilles sont en voie de disparition, faut pas l'oublier, et pour nos formations d'apiculture. Dans ce jardin, on a installé également une plateforme à cigognes. Et depuis quelques semaines, on a 2 cigognes qui s'y sont posées. Donc on espère que par la suite, elles vont nicher.
Donc
on a toujours aussi d'autres projets, comme en fin de mois, on va avoir un superbe projet en fin de mois, c'est l'implantation d'un superbe jardin en carré, avec des arcades, une architecture vraiment très belle, pour montrer aux visiteurs qu'un potager, ça peut être super esthétique et que ça peut très bien s'intégrer dans un jardin d'agrément. Après, on a une autre partie du jardin qui sera réservée au jardin d'agrément. Voilà. Donc, nous pratiquons également la permaculture, la culture sur bottes de paille. Et cette année, nous allons mettre en place un peu d'électroculture. Voilà un peu résumé le jardin de l'ermite.
Alors, bien évidemment, Bertrand, l'utilisation de pesticides et de produits chimiques est exclue. Hein.
Ah oui, bien évidemment, tout emploi de produits chimiques, de pesticides, c'est totalement exclu chez nous. Hein. Et pourtant, rien n'est malade, tout pousse merveilleusement bien. Et par contre, nous avons utilisé des purins d'ortie, de consoude, de la décoction de prêle, du bicarbonate de soude, par exemple. Donc, pour la consoude, on cultive comme une consoude un peu spéciale, la bouquine 14, qui donne énormément de feuillage, qui ne rajeune pas, qui ne se ressème pas. C'est un croisement entre la consoude de Russie et la consoude officinale, donc c'est celle qui est plus riche en nutriments, en oligoéléments, en minéraux. Donc pour un jardin naturel, nous demandons également l'aide des auxiliaires. Donc nous avons fait en sorte d'accueillir par exemple les cirfes qui ressemblent à des petites abeilles. Donc on les reconnaît parfaitement, les cirfes, à leur vol stationnaire. Donc les cirfes se nourrissent de nectar. Mais leurs larves se délectent de pucerons au printemps ou en cours de saison. Alors c'est très important d'avoir des fleurs sauvages dans la pelouse, des fleurs dans le jardin, tout ça pour accueillir les cirfes parce qu'elles se nourrissent de nectar. Et elles sont sur place pour pondre, et c'est les pucerons qui vont s'attaquer aux pucerons. Leurs larves qui vont s'attaquer aux pucerons.
Oulala. Voilà.
Alors pour ce faire, nous avons enterré le jardin d'une haie champêtre, donc une double rangée d'arbustes, plus de 650 arbustes, 85 variétés différentes. Donc le nectar et le pollen des fleurs va nourrir les insectes, les baies vont nourrir les oiseaux, et l'ensemble, ça va offrir un superbe abri naturel à tout le monde, quoi. Et puis, en plus, une haie comme ça, qui est autour du jardin, ça sert également de corridor biologique et de brise-vent. Donc, pas besoin de pesticides dans le jardin.
Alors, justement, Bertrand, bon, là, vous avez presque tout dit, mais Bertrand Trinel, pour vous, la bêche est un véritable symbole. Alors, la considérez-vous toujours comme le meilleur et le plus important des outils ?
Non, alors, forcément, la bêche, c'est vrai, c'est un véritable symbole pour tout le monde, hein. Et elle reste néanmoins, parce que par rapport à ce que je vais dire après, un superbe outil pour les plantations d'arbres et d'arbustes. Par contre, nous, on l'utilise jamais au potager. Parce que dans un jardin naturel, le sol est vivant. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un sol vivant. Donc tous les micro-organismes qui sont dans le sol, dans la première partie du sol, vont décomposer toute la matière organique qu'on y apporte et la rendre assimilable aux plantes. Donc il faut à tout prix préserver cette vie. Hein ? On nous dira qu'on a toujours bêché, qu'on a toujours eu des légumes. Mais d'une part, nous n'avons pas toujours bêché parce qu'il n'y avait pas de bêche dans le temps. Hein. Les premières bêches, c'était des grosses bêches en bois, donc on ne pouvait pas tellement bêcher et retourner la terre. Et d'autre part, l'emploi massif d'engrais chimiques et pesticides, les produits chimiques, tout ça, ont terminé de détruire toute la vie du sol. Donc, le sol, c'est actuellement dans les champs, dans certains jardins, c'est plus qu'un support de culture. Les engrais chimiques vont nourrir directement les plantes en NPK. Et voilà, donc bon appétit à tout le monde, hein, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc les micro-organismes qui décomposent la matière organique vivent dans les 15 à 20 cm de la couche supérieure. Donc quand on bêche, on retourne tout ça, on enfuit en profondeur toute cette vie, on la prise d'oxygène, et c'est la mort assurée pour toute cette vie, quoi. Donc il faudra des années ensuite pour reconstituer ce sol bien vivant. Donc c'est une approche très rapide, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est très rapide, c'est pour vous expliquer un peu, vite fait. Mais par contre, on a besoin d'aérer la terre, sinon on risque de la tasser, de la rendre très compacte. Donc pour cela, nous on utilise l'actibèche, d'autres vont l'appeler la grelinette, d'autres encore la biobèche, hein. Ça a 3 ou 5 dents en acier, selon les modèles, et souvent c'est muni de 2 manches. Donc on enfonce les dents dans le sol, on tire vers soi, on repousse en avant et on ressoulève. On recule de 10 cm et ainsi de suite. Et comme ça, tout le sol est aéré, c'est très facile, c'est beaucoup moins fatigant que de bêcher. Et les micro-organismes du sol qui nous aident, bon, vont rester à leur place dans leur habitat. Donc la bêche est très utile pour les plantations, mais pas pour le potager, ou alors seulement pour arracher les légumes. Voilà.
Tout à fait. Alors, bon, j'ai réussi à mettre Monsieur Larsen à la porte, là. Donc, on va pouvoir continuer. Alors, on l'a compris, Bertrand Frinel, l'objectif poursuivi par vous et votre association, eh bien, c'est de dédier ce jardin à la culture biologique, sans pesticides ni herbicides, et donc lutter contre la disparition des abeilles, hein, vous l'avez dit, et puis maintenir et sauvegarder la biodiversité sous tous ses aspects. Alors, j'en connais qui disent que jardiner sans aucun produit phytosanitaire n'est pas possible. Et pourtant, lorsqu'on voit l'exubérance de votre production légumière, on ne peut qu'être persuadé du contraire. Alors, soyons pratiques, Bertrand. Vous nous avez donné quelques recettes, hein. Alors surtout, j'espère que les amis jardiniers ont bien tendu l'oreille. Alors, pour fertiliser et soigner le jardin, donc vous avez parlé de consoude, de... Je vous attends.
Oui, bon, c'est vrai.
De bouillie bordelaise, peut-être aussi.
Oui, voilà. Donc, j'ai entendu, je ne sais pas combien de fois, que sans produits phyto, on n'a plus rien au jardin. Hein, toutes sortes de bestioles vont venir dévorer nos cultures et tout ça. En fait, plus on va traiter avec des produits phyto, et plus on accentue le risque d'être envahi par tel ou tel insecte ou telle maladie. Parce que quand on traite sans discernement, les produits phyto, il n'y a pas de discernement, on élimine toute la vie. Donc on élimine bien sûr les ravageurs, hein, qui nous posent problème, hein, on veut s'en débarrasser, c'est très bien, mais on élimine également tous les auxiliaires qui nous sont aussi bien utiles. Donc de ce fait, lorsqu'un envahisseur va proliférer à nouveau, eh ben, rien ne va s'opposer à sa prolifération, et du coup, la plupart des jardiniers refont un nouveau traitement et ça recommence, et on pollue le sol, et on pollue.
Et oui,
Allez-y.
Non, parce que justement, Bertrand, on ne le répétera jamais assez, hein, tout jardinier qui veut jardiner bio, on va dire autrement, doit prendre comme partenaire la faune et faire avec nos amis les bêtes et les insectes. Hein. Surtout, ça, c'est très important.
Hein. Ah ben c'est hyper important, c'est la priorité. De toute façon, on a besoin d'aucun traitement dans un jardin. Dans un jardin, il faut créer l'équilibre. Donc c'est vrai que tous les dangers sont dans le jardin. Mais c'est pas parce que il y a 3 pucerons qui apparaissent qu'on va déclencher le plan hors sec. Chaque traitement de produits phyto va polluer le sol, va polluer la nature et va rentrer dans les nappes phréatiques. Et bien sûr, ceux qui vont manger les légumes, bah, ils seront aussi traités de cette façon-là. Donc, lorsqu'on n'emploie aucun pesticide, on recrée un milieu naturel où tout est en équilibre. Donc, il y aura bien sûr des pucerons, mais en contrepartie, qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura des coccinelles, il y aura des cirques, il y aura des chrysopes, il y aura des oiseaux. Donc, après, pour fertiliser le sol, pas besoin de mettre des engrais NPK, qui est un engrais chimique. Il suffit de faire du compost, rien de sortir du jardin, on fait du compost, on met des engrais verts sur le sol après quand le parc a été arraché. Voilà, ça empêche et ça amène de l'engrais, ça empêche l'érosion des nutriments et tout ça. Donc, par exemple, je vais donner un petit conseil pour lutter contre les limaces. Bon, c'est une question qui revient souvent. Donc, l'idéal, c'est de se lever à 4h du matin, on ramasse les limaces, on les met dans le bois plus loin. Bon, ça, c'est ce qu'on dit, c'est pas facile à faire. Hein. Bon, mais... Bien souvent, les grosses limaces ne sont pas celles qui font le plus de dégâts. Par contre, les petites noires sont beaucoup plus actives. Donc, simplement, un peu de levure de boulanger qu'on mélange dans de l'eau. Donc, et on met ça dans des bocaux et on les enfonce à moitié dans le sol. on peut mettre une petite planche 5-6 cm au-dessus pour pas que la pluie rentre dedans. Et tout ça, ça va attirer énormément de limaces. Toutes les limaces aux alentours vont venir se noyer dans ce bocal. Bien souvent, on parle de bière. Mais ça, c'est nettement supérieur à la bière, parce que dans la bière, ce que recherchent les limaces, c'est la levure. Donc voilà. Et après, pendant la saison hivernale, faire courir quelques poules au jardin, et elles vont vous débarrasser de plein de larves et plein de limaces.
Voilà, tout ça, c'est, on l'a compris, des petits gestes de développement durable que nous pouvons accomplir très facilement dans notre jardin.
Voilà, on peut aussi mettre beaucoup de nombreux nichoirs pour attirer les oiseaux, les moineaux domestiques qui sont très très avides de pucerons lorsqu'ils doivent nourrir leur petits. Pareil, un point d'eau, c'est la vie qui arrive. Donc, s'il est naturel, les crapauds, les grenouilles viendront se reproduire. Donc, un tas de branches. Bon, ça servira d'abri aux hérissons. Voilà, et donc il y a plein de choses qu'on peut faire, quoi.
Et alors justement, parce que, on l'entend, vous êtes intarissable sur le sujet, Bertrand Trinel. Alors, à ceux qui veulent en savoir plus, qui veulent être formés, qui veulent être en apprentissage, avoir un apprentissage sur le jardinier autrement, eh bien, je leur conseille vraiment de se rapprocher de votre association, car vous organisez des stages gratuits, des formations, des visites de jardin, des conférences, vous donnez des informations, beaucoup d'informations, des trucs, des astuces pour jardiner bio, n'est-ce pas? Alors, vous avez combien d'adhérents d'ailleurs à présent, Bertrand Trinel?
Alors, on approche les 700 adhérents, hein, donc principalement répartis dans le Nord-Pas-de-Calais, hein, mais également dans de nombreuses régions de France, hein, dans le sud, du côté de Bordeaux, en Bretagne, dans l'Essonne, dans le Jura, en Alsace, en Belgique, Bruxelles, pas mal à Bruxelles, et ailleurs d'ailleurs. Mais s'il y a des auditeurs qui désirent nous rejoindre, hein, rejoindre l'association, il y a un bulletin d'adhésion qui est à télécharger sur notre blog, hein, donc il suffit de taper dans Google des paysages, des jardins et des hommes, et ou alors vous m'appelez au 06 11 38 73 11, où vous demandez à Radio Plus de vous donner mes coordonnées. Donc c'est vrai que le jardin, lui, est ouvert tous les mercredis après-midi et chaque samedi matin à partir d'avril. Hein, ça, c'est ouvert au public et à tous ceux qui veulent venir. Et nous programmons aussi des matinées à thème, hein, par exemple la culture sur bottes de paille. Hein. On organise des stages de greffe et de taille, de la formation apiculture. On organise des cours d'art floral. Régulièrement, on organise des conférences sur le jardinage ou autre. Hein. D'ailleurs, vendredi qui arrive, ici le vendredi 24 avril, c'est une conférence sur le bactériosol. Donc, ce qu'il a peu apporté au jardin naturel, au jardin bio. Donc, c'est à 19h à la salle des fêtes d'Aveskerk. Donc, tout le monde est bienvenu, hein, c'est gratuit, tout le monde peut venir.
Voilà. Alors, plus de 700 adhérents, ce qui est formidable. C'est un nombre qui est en évolution constante, ce qui veut dire que la prise de conscience se fait quand même petit à petit. Et puis, c'est vrai que votre association, Bertrand Trinel, est un havre de paix et un bon moyen de se ressourcer. Merci à vous, Bertrand.
Merci à vous, Martine.
Et bien sûr, on se retrouvera tantôt sur cette même antenne, car on sent que vous avez beaucoup de choses à dire et que le jardin est vraiment votre passion. Merci, Bertrand.
Merci. Bonne journée.
Dans la steppe au phosphore, dans les champs de lithium, dans les fleuves au mercure, sous un soleil de plomb, sur un nuage de soufre, gorgé de plutonium, dans le vent désertique, chauffé par les torchères, d'éthérique en furie, du haut d'un mirador, j'aperçois les barbares envahir l'horizon. C'est pas les petits claqueurs, les enfants sans futur, les casseurs de banlieue. C'est pas les affamés du charité business, pas non plus les chômeurs du carbone triomphant d'un gros port arrogant, tirant sur son cigare, traite de fainéant. Lâchez femmes et enfants, planquez tous vos dollars, descendez aux abris, arrimez les blindages, condamnez les entrées, évitez les sorties, préparez la survie, rationnez l'oxygène, comptez-vous, faites la peine. C'est les nouveaux barbares qui cachent l'horizon comme un vol de sauterelles. C'est les nouveaux barbares fuyant de suffisance sur nos espoirs en ruine. Les grands dégraisseurs de société, ramasseurs de profits, générateurs de haine, allumeurs de conflits. Regardez les pollués, notre terre et notre eau. Ricaneurs politiques, arnaqueurs de prestige, pourvoyeurs de culture. Abrutisseurs d'âme, parfois médiatiques. Je surgirai fatal de la nuit métallique, vêtu de cuir noir.
François Béranger, et oui, attention, danger avec beaucoup de produits indésirables et danger aussi pour notre animal et notre petit félin. Et on en parle tout de suite avec Christine Defort de la SPA d'Artois.
Paul Léoto disait: les gens qui ne s'intéressent pas aux bêtes ne savent pas quelle merveille de bonté, de fidélité, d'attachement, d'intelligence curieuse on trouve en elles. C'est la plus charmante compagnie quand on sait s'y prendre, et je parle de toutes les bêtes.
Bonjour Christine.
Bonjour Martine et bonjour à tous.
Alors la semaine dernière, nous avions abordé l'empoisonnement chez le chat, assez fréquent bien que les petits félins aient un goût très sélectif. Et Christine, vous nous aviez énuméré les symptômes permettant de reconnaître l'empoisonnement et l'intoxication, à ne pas confondre avec un problème gastrique. Alors maintenant que nous savons quoi faire et comment traiter l'urgence, eh bien nous allons peut-être entrer dans le domaine de la prévention, car bien sûr il y a des choses que l'on peut éviter, surtout chez soi. Alors Christine, beaucoup de chats sont amenés chez le vétérinaire parce qu'ils sont entrés en contact avec des substances d'usage domestique courant, et ce qui est dramatique, c'est que l'ingestion de certains de ces produits peut même entraîner la mort. Et si vous le voulez bien, nous présentons ici les principales et les plus fréquentes. Alors bien sûr, les produits que l'on trouve de façon systématique dans toute habitation, ce sont les produits d'entretien.
Oui, tels que le savon, la lessive, les liquides vaisselle, les nettoyants pour le carrelage ou la moquette. Le chat est très attiré par les produits parfumés aux huiles essentielles, ce qui est très courant avec les lessives pour le linge ou les détergents pour la cuisine. Et la toxicité des détergents, eh bien, est liée à leurs propriétés irritantes et moussantes, Martine.
Alors, bien sûr, il y en a d'autres, ils sont responsables d'environ une intoxication sur trois chez les chats. On les appelle les polluants, qu'on met bien souvent avec les produits d'entretien.
Tout à fait. Ceci s'explique aussi par le fait qu'il s'agit d'une grande famille qui regroupe les hydrocarbures, carbures, le white spirit, le fioul, le mazout, les huiles essentielles, les lessives, comme je vous le disais tout à l'heure, les fongicides et les herbicides. Et certaines intoxications sont dites volontaires. Il s'agit de personnes qui ne connaissent pas la toxicité de ces produits. Donc, on observe cela principalement pour le white spirit. Parfois, il y a des gens qui veulent enlever de la peinture fraîche sur leur chat et qui nettoient white spirit. Et oui, ça existe. Les huiles essentielles aussi qui sont utilisées en tant que répulsif contre les insectes, Martine.
Et
donc
puis,
il faut être très vigilant.
Et puis, qui n'a pas de plantes chez soi ?
Oui, chez soi ou à l'extérieur, l'intoxication par les plantes, il faut savoir qu'elle est c'est l'intoxication la plus fréquente chez les chats. Donc le chat présente des vomissements, une anorexie, une dépression, des troubles urinaires et neurologiques. Il faut faire très attention, très vigilant par rapport aux plantes, hein. Vous avez une liste de plantes nocives que vous pouvez consulter sur internet ou bien entendu nous demander. Souvent ce sont les plantes à feuillage mixte, par exemple de couleur vert et blanche. Ces plantes-là sont très très nocives, et les ficus également.
Et puis, alors, les médicaments, hein, on n'y pense pas toujours, mais eux aussi sont très nocifs. À savoir, Christine, que les médicaments humains sont souvent très dangereux pour notre animal, sauf si, bien sûr, le vétérinaire les a prescrits.
Oui, bien sûr, il ne faut pas. L'important, c'est surtout de ne pas automédicaliser son chien, son chat ou son chien. Il faut, sauf si bien sûr le vétérinaire l'a prescrit, parce qu'il y a des médicaments qui sont nocifs, comme le doliprane, les feralgans, le dafalgan. Le chat est très sensible. Ça peut provoquer des troubles sanguins à haute dose. Le chat peut même tomber dans le coma, donc ce qui conduit inéluctablement à la mort. Donc il ne faut surtout pas, eh bien la prévention, hein, c'est comme avec les enfants, Martine, il ne faut surtout pas laisser traîner de médicaments et surtout pas ne leur donner sans avis médical, bien entendu.
Et puis enfin, Christine, il y a les pesticides, les herbicides et les raticides.
Oui, on les recense essentiellement, ce sont essentiellement des cas d'intoxication pour les topicides et les raticides qui sont utilisés comme insecticides, mais aussi dans certains médicaments. Donc, surtout, éviter de les mettre à disposition, à portée de patte, je dirais.
Tout à fait. Et puis, pour conclure, on rappelle, Christine, que certaines autres substances sont très toxiques, comme le chocolat, par exemple.
Oui, il ne faut le chocolat, le plus il est noir et plus il contient ce qu'on appelle de la théobromine qui intoxique le chat comme le chien. Hein, d'abord, il présente des signes digestifs, puis ensuite, ce sont des signes nerveux qui apparaissent. Donc surtout, eh bien, si votre animal a mangé du chocolat, il est important de rincer la bouche d'éliminer les toxines. Mais éviter de donner du chocolat, c'est la prévention. Et ça, on ne le rappelle jamais assez que le chocolat est très, très, très nocif pour nos animaux domestiques.
Et oui, et c'est vrai qu'on ne sait pas tout. Par exemple, je ne savais pas que l'ail et l'oignon sont des poisons pour le chien. Vous voyez, on a toujours à apprendre. Alors, la semaine prochaine, Christine, nous conclurons ce chapitre avec les empoisonnements à l'extérieur, dus soit à la malveillance, soit à des produits ingurgités dans la nature. Mais avant de se séparer très très vite, un petit rappel.
Alors le marché de Pâques au profit des animaux hébergés au sein du foyer animalier de Vermel, donc ce marché de Pâques qui aura lieu le samedi 1er avril et le dimanche 2 avril de 11h à 17h à la salle Jean Jaurès à Vermel, donc marché de Pâques, c'est-à-dire que on vous propose des compositions avec des chocolats. Donc venez nombreux pour régaler les petits et les grands. Merci pour eux.
Christine, merci, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Martine. Merci. D'ici là, bonne semaine.
Bonne semaine à vous.
Passer à côté de toi ne me dit rien, mais je comprends toujours mieux au début qu'à la fin. Comme une fleur fanée, un bazar sentimental a dû s'installer. Et je dois déjà boucler mes mal, ça fait un mal de chien. J'ai rien fait de mal, je ne sais plus trop bien. J'aime tout malgré mon
temps aujourd'hui, ce qui veut dire que la trêve hivernale durant laquelle aucune expulsion n'est possible va prendre fin. Chaque année, plusieurs milliers de personnes manifestent pour défendre les mal logés et puis d'autres agissent. Alors, lutter contre les expulsions locatives et les coupures de fluide, eh bien, c'est le combat mené par le collectif La Clé. Daniel Dewal en est le représentant. Bonjour, Daniel.
Oui, bonjour. Bonjour Martine.
Alors, vous avez dit, c'est vrai que le printemps, c'est pas que du bonheur, hein, car pour certains en situation de précarité, cela est synonyme d'expulsion. Alors, bon, on n'a plus de quoi payer pour une raison ou pour une autre. On commence par vous couper l'électricité, le gaz et puis l'eau. Et ensuite, vous ne pouvez plus assumer votre loyer. C'est la spirale qui aboutit bien souvent par l'expulsion du domicile que vous occupez. Et 24% de hausse en un an, le nombre d'expulsions locatives atteint un triste record. Alors justement, vous avez dit, je vous cite, on a supprimé la peine de mort, on peut bien éviter les expulsions et les coupures de fluide quand même. Et cela fait quelques années que vous militez avec d'autres pour ce que vous appelez des décisions judiciaires d'un autre siècle.
Ben oui, en disant, c'est vrai qu'au XXe siècle, on a supprimé la peine de mort et que ben, les expulsions et puis les coupures d'énergie, c'est une forme de peine de mort sociale, quoi. Et alors, comme vous disiez, c'est le retour du printemps, mais pour beaucoup de personnes, ce sera dramatique à partir du 1er avril, quoi.
Alors, Daniel De Waal, vous avez déjà rencontré plusieurs fois le sous-préfet de Béthune et à nouveau, vous le sollicitez, mais pour lui demander quoi ?
Bah, en fait, pour demander à ce que l'État arrête de cautionner les expulsions, hein, et en demandant y compris à ce que l'État respecte la loi qui a été votée, le droit au logement opposable, la loi Dalo, qui n'est même pas respectée bien souvent, malheureusement. L'an dernier, l'État français a été condamné 6000 fois, hein, en 2016, 6000 condamnations pour non-respect du droit au logement opposable, quoi. C'est-à-dire que l'État ne respecte pas ses propres engagements par rapport aux familles en grande difficulté. Il est normal que quelquefois que des propriétaires aient besoin de récupérer un logement pour diverses raisons, mais les locataires en question ne doivent pas être expulsés. L'État a une obligation de les reloger. Et c'est cette obligation que l'État ne respecte pas bien souvent.
Alors, justement, Daniel, au fil des années, est-ce que le dossier avance ou vous faut-il chaque fois renouveler les mêmes demandes ?
Oh, bah, j'allais dire, il y a eu un progrès, parce qu'il y a 10 ans, il y a le droit au logement opposable, là, le DALO qui a été voté en 2007, qui était donc déjà un progrès pour limiter le nombre d'expulsions. Mais en fait, d'année en année, on reproduit les mêmes. Il y a dans l'idée des autorités, des gens dans leur esprit qui seraient de mauvaise foi. Or, on sait que si des gens étaient de mauvaise foi, il y a un moyen très simple de les obliger à payer leurs dettes, c'est les saisies arrêts sur les ressources. Et en fait, bien souvent, on constate que ces personnes ne sont pas de mauvaise foi, ce sont des personnes qui sont en grande difficulté financière.
Alors, je suppose que le collectif que vous représentez propose des solutions.
Ben, nous, chaque fois, on dit que... il faut proposer un logement à la personne expulsable pour qu'il n'y ait pas d'expulsion, mais qu'il y ait un relogement préalable, quoi. Et c'est pourquoi on va rencontrer le sous-préfet. Vous voyez, on n'a pas encore les chiffres de l'année 2016, hein, puisqu'ils sont en train d'être comptabilisés, mais en 2015, je prends dans notre arrondissement, il y a eu 150 expulsions décidées par la loi, hein, par les tribunaux, avec concours de la force publique. Et en fait, la sous-préfecture n'en a fait appliquer que 15. C'est-à-dire 10%, quoi. Et donc, et pourquoi les 135 autres n'ont pas été appliqués ? Ben parce que ils constatent que ce sont des décisions inhumaines et qu'on ne peut pas expulser une mère de famille avec ses enfants, ou parce que une maladie est intervenue, parce que le chômage est arrivé, parce que quelqu'un a eu un grave accident et ne travaille plus et que les ressources diminuent, on ne peut pas expulser. Et donc, 135 fois sur 150 fois, la loi, entre guillemets, n'a pas été respectée parce qu'on estimait que c'était une loi injuste, une décision injuste. Et donc nous disons, ben, faut changer la loi, quoi.
Oui, tout à fait. C'est vrai que cela souvent se passe manu militari, hein, je veux dire par là avec les forces de l'ordre, que vous trouvez très peu digne d'une société, on va dire, civilisée.
Bah oui, ça nous est arrivé ici au mois d'octobre, hein, nous étions donc une quarantaine de personnes pour empêcher une expulsion. On a parlementé pendant 2h30 avec le sous-préfet, avec la préfecture, et puis finalement ils ont fait intervenir le PSI, là, c'est le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, pour dire que nous étions donc de grands délinquants, hein, parce que ces services de gendarmerie ou de police qui sont là pour les criminels, on les fait intervenir pour pouvoir réaliser une expulsion, et nous avons été obligés, et donc une mère de famille et sa fille ont été expulsées, et puis bah, il a fallu qu'on se batte pour que 2 mois après, elle obtienne un relogement, hein, au mois de décembre, parce que nous avions menacé d'aller faire du sitting à Noël et au Nouvel An devant la sous-préfecture. Donc on a eu gain de cause au mois de décembre, mais on se dit que ce qui a été réalisé en décembre, eh bien, ce logement aurait pu être donné à cette personne dès le mois d'octobre et elle n'aurait pas été expulsée, elle aurait simplement profité d'un déménagement et c'est tout, quoi.
Bah oui, parce qu'on se demande ce qu'elle a fait pendant 2 mois.
Ben oui, donc pendant 2 mois, ben j'allais dire, sa fille a vécu chez la grand-mère dans une ville, la maman est allée vivre dans l'autre ville chez son père, avec les complications que ça représente pour la vie familiale.
Bien sûr. Alors justement, Daniel, est-ce que le nombre d'expulsions est en augmentation ?
Bah malheureusement il augmente parce que les gens sont de plus en plus pauvres. Vous voyez, on dit il y a 30 ans en gros on consacrait 15% de 12,5% à 15% de ses ressources pour son loyer ou pour son accession à la propriété. Et aujourd'hui, c'est 25%. Hein. Mmh. Donc le logement est devenu beaucoup plus cher, c'est devenu un produit malheureusement de luxe, alors que c'est un produit, j'allais dire, de première nécessité, et donc de plus en plus de personnes n'ont plus les moyens qu'elles avaient il y a 30 ans, et aujourd'hui donc on est de plus en plus confronté à ces expulsions qui sont scandaleuses, quoi.
Tout à fait, et puis bien sûr ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Il peut y avoir des tas de raisons différentes qui font que l'on se retrouve à la rue. Vous en avez cité quelques-unes, mais il y en a plein d'autres.
Ouais. Ah oui, puis ça vient rapidement. On voit des gens très bien dans leur vie, très bien dans leur peau, dans leur maison. Et puis, quelqu'un tombe malade, quelqu'un a un accident grave, quelqu'un se retrouve au chômage. Et puis, c'est très vite la dégringolade, quoi. Et l'esprit, donc, de la loi, là, au logement opposable n'est pas toujours respecté. Par exemple, l'année dernière, on a proposé à une personne un relogement, mais en lui proposant une maison avec un loyer plus cher que le logement dont elle n'arrivait pas à payer le loyer. Donc bon, c'était pas une proposition comme ça, on sait d'avance que la personne ne pourra pas la respecter, quoi. Une autre famille où il y avait une dame handicapée qui ne peut vivre qu'au rez-de-chaussée, on leur a proposé dans le cadre du relogement un logement, vous savez, il y a ces logements sur 3 niveaux, mais au rez-de-chaussée, il y a que la porte de garage. Et puis une petite porte, et devant, on se trouve devant un escalier. Parce que le logement, la salle de séjour, tout ça c'est au premier étage, et les chambres au deuxième étage, on a proposé à cette famille avec une personne handicapée un logement qu'elle ne pouvait pas accepter, puisqu'elle n'aurait pu entrer que dans le garage, quoi.
Oui, mais Daniel, Daniel, excusez-moi, quand vous dites « on a proposé », c'est qui le « on » ?
Qui ? La préfecture. Dans le cadre des obligations de l'État. D'accord. Sur le logement opposable, et on dit que quelquefois donc la préfecture fait des propositions que les gens ne peuvent pas accepter. Mais après on nous dit, vous voyez, on leur a fait une proposition, ils l'ont refusé, donc on les expulse.
D'accord.
J'estime que quelque part c'est malhonnête, quoi.
D'accord. Donc quand vous dites la préfecture, c'est forcément l'État.
C'est l'État, oui.
Dans le cas de cette personne handicapée, c'est encore l'État qui fera, qui fermera certaines entreprises ou certains, parce que l'accessibilité n'est pas possible.
Voilà. Oui,
donc,
oui,
quelque part, il y a paradoxe quand même. Il y a contradiction quelque part. Tout à fait.
Ben oui. C'est ce qu'on veut dénoncer auprès du sous-préfet. Bon, on n'a rien, j'allais dire, contre le sous-préfet, mais on s'adresse aux représentants de l'État disant que l'État n'assume pas ses responsabilités, quoi.
Tout à fait. Alors, Daniel De Waal, vous est-il arrivé d'aider dans l'urgence, ce qui signifie d'abord d'accueillir et écouter les personnes en difficulté, d'apporter des réponses à leurs besoins immédiats et de les soutenir et d'agir pour les causes de leur exclusion? Je suppose que vous allez me dire oui.
Malheureusement, quoi. Les uns les autres, ça nous est arrivé de dépanner, d'héberger quelques jours une personne, mais on estime que c'est une solution de dépannage exceptionnelle et que on ne peut pas résoudre les problèmes comme ça, quoi.
Bien sûr.
Quand on sait que, je vois l'an dernier, c'est environ, il y a 500 000 personnes en France, hein, on voit ce que signale Emmaüs, ce que signalent les rapports du Secours catholique, les rapports du Secours populaire, que cette pauvreté, elle s'aggrave. Et pendant ce temps-là, le nombre de milliardaires, lui, à l'opposé, il augmente, à l'autre extrémité. Et on se dit que c'est pas normal de continuer comme ça, quoi, en fermant les yeux.
Et justement, Daniel De Waal, on rappelle que vous êtes aussi vice-président du Secours Populaire, association au cœur de la précarité qui aide les plus démunis. Mais c'est en tant que membre de la clé, que de la clef, on va dire, hein, que vous conviez la presse, les élus, les associations, les bénévoles et tous ceux qui sont contre l'exclusion à une conférence de presse ce jeudi 23 mars à Breuil-la-Buissière. Alors ça se passe à Breuil-la-Buissière, salle...
Buissière, donc, voilà, à la maison des associations... C'est en face du Stade Parc, rue Roger Salengro, donc ce jeudi 23 mars à 18h. Quoi.
Tout à fait. Conférence qui sera suivie par une manifestation régionale le samedi 1er avril à Lille.
Voilà, le samedi après-midi, hein, le 1er avril à 15h, à Lille, il y a un rassemblement donc, sur la Grand Place pour dénoncer le retour des expulsions et des coupures d'énergie. Quoi.
Daniel De Waal, merci. Merci pour ce que vous faites.
Ben, merci à vous aussi et bonne journée aux auditeurs.
Et à tantôt sur cette même antenne, car vous avez encore des choses à dire.
Voilà. Merci, bonne journée.
Merci.
C'est l'heure où les camions se gavent de poubelles, où les bistrots baillent encore et dorment les hôtels, où je marche sans souvenir d'une nuit trop lointaine. C'est l'heure. C'est l'heure où les ruelles toilettées se croient belles, où les bouches d'égout n'ont plus mauvaise haleine. Bref, c'est l'heure où la ville se nettoie les veines. C'est l'heure. C'est l'heure où les cartons se déplient sur l'asphalte, sous un ciel éclairci tirant sur le cobalt. S'éveillent leurs résidents, résidus de société. C'est l'heure. C'est l'heure où l'amnésie a des relents de mal, d'où ma pupille encore un peu trop dilatée refuse la lumière et sa vérité. C'est l'heure. On m'a volé la lune quand j'allais la toucher, où est passée la brune qui semblait la porter.
Yves, jamais c'est l'heure, et c'est l'heure que nous nous quittions. Alors je vous dis bye bye, à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Tout de suite après la petite page de publicité, si vous restez avec nous, vous prendrez une bonne pinte de bonne musique et avec Kaléidoscope. Sinon, je vous souhaite une très très bonne matinée, quoi que vous fassiez.